Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des lieux qui, par leur simple atmosphère, invitent à prendre conscience que la vie est une mystérieuse aventure. Notre-Dame de Garaison en est un. Situé à 20 km au sud de Lannemezan, dans le département des Hautes-Pyrénées, ce sanctuaire marial, inconnu parfois même des locaux, est le plus ancien des lieux d'apparition mariale reconnus en France. Oui, oui, vous avez bien entendu, le plus ancien des lieux d'apparition mariale reconnus en France. Ici, la Vierge Marie est apparue à une bergère en 1515, anglaise de Sagazan, un lieu de grâce caché qui ressemble quelque peu à un autre village de Galilée. Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc depuis Notre-Dame de Garaison, deuxième émission de cette série de l'Avent avec le Père Pascal Garçon, toujours comme lundi de la semaine dernière, Père de Sainte-Croix et recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Pour ceux qui auraient suivi l'émission de la semaine dernière, ils ont vu que j'avais fait la même introduction, mais voilà, au moins ça permet de se mettre dans le jus. Aujourd'hui, deuxième volet, la première émission c'était entrer dans l'Avent avec Marie. Aujourd'hui, c'est aller au désert avec Marie. Alors vous me direz peut-être à une semaine de Noël, on va se dire, on est plutôt dans la phase des préparatifs, pas dans la phase des déserts, du désert, quoique il est toujours temps. Comme tout le monde n'écoute pas à chaque fois, je voudrais qu'on reprécise quand même un tout petit peu le lieu. Alors peut-être pouvez-vous me le préciser autrement. Vous m'aviez dit hors antenne que mystérieusement, il y a des gens qui viennent ici à Garaison, soi-disant par hasard, et vous en croisez beaucoup, et depuis que vous êtes ici, ça vous surprend toujours que des gens aussi variés viennent ici, et soi-disant par hasard.
Ben, l'expression française par hasard n'est peut-être pas tout à fait adaptée ici, mais c'est vrai que c'est très curieux de voir qu'il y a des gens qui peuvent venir de très très loin. Je pense à des personnes d'Australie ou du Brésil qui, on se demande pourquoi viennent-ils jusqu'à Garaison alors qu'il y a des locaux qui ne connaissent pas ce lieu. Des gens aussi qui n'avaient pas fait au matin, quand ils ont gardé leur agenda, le projet de venir à Garaison. Et puis il y a eu une cause seconde, soit météorologique, ils avaient prévu de pique-niquer et puis il pleut, donc ils vont venir ici, soit parce qu'ils avaient prévu de visiter Saint-Bertrand de Comminges, qui est quand même beaucoup plus célèbre au niveau architectural que Garaison, et puis ce jour-là c'était fermé, où il y avait trop de monde, tout ça, et ou alors ils ont vu simplement la pancarte. Mais je crois qu'à travers toutes ces causes secondes, il y a une cause première, c'est qu'on ne choisit pas de venir à Garaison, mais c'est Marie qui nous demande de venir à Garaison et qui s'arrange pour que notre chemin croise son chemin.
Voilà, donc c'est un sanctuaire marial. Donc, depuis quand c'est un sanctuaire marial, du coup ?
Depuis 1515, les apparitions, et le sanctuaire construit en 1540, donc 25 ans après.
Voilà, on peut dire que c'est presque l'ancêtre de Lourdes ici. Je ne sais pas si la comparaison est heureuse, mais en tout cas, c'est parfois comme ça que ça m'a été présenté.
Le père Cab, qui est recteur, qui est un frère et un ami, qui est recteur des sanctuaires de Lourdes, dit très souvent que Garaison est la préface des apparitions de Lourdes.
Voilà, donc ce lieu à découvrir, ce lieu plein de mystères. Peut-être, j'avais deux questions encore introductives. Le premier, c'est sur le terme de Garaison. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Garaison et qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, il y a plusieurs explications. Celle que j'aime le mieux et celle qui me paraît la plus juste, c'est Garaison, c'est dans le patois du plateau, c'est Garaison. On devrait dire Notre-Dame de Guérison en français parfait, et nous disons Notre-Dame de Garaison, puisqu'avant 1515, le lieu était connu comme la lande d'El Boc, la lande du bouc, et pour beaucoup, au Moyen-Âge, le bouc, c'était le rappel du diable. Donc, vous voyez, vous pensez venir dans une terre mariale, et on parle d'une terre du diable que Marie a chassée, et dont vous retrouvez la tête d'ailleurs à travers une sculpture dans ce mur extérieur qui donne sur la rue, de cette tête dont on ne sait pas d'où elle vient, est-ce qu'elle est gallo-romaine, mais voilà, un diable qui n'a plus vraiment sa raison d'être, qui n'a plus sa place à Garaison, puisque Marie vient y donner des grâces, et en particulier des grâces de guérison.
Alors la première chose peut-être qu'on peut dire sur ce lieu à propos du désert, c'est que donc la Vierge Marie au moment de la première apparition a bien dit que en ce lieu qu'elle avait choisi ce lieu, donc elle l'a choisi à dessein. Et la première réalité, c'est que c'est un lieu, vous avez commencé à le décrire, peut-être que vous pourrez le faire plus avant, c'est un lieu tout à fait désert. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première émission, qui ne sont pas venus. Peut-être pouvez-vous, pour les aider à comprendre, nous redire quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé à Notre-Dame de Garaison. C'est toujours frappant quand on arrive pour la première fois ici. On se dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir au bout de cette route avec ce ruisseau qui court le long de la route, si ce n'est une bergerie ?
Voilà, on quitte un petit peu, on quitte, surtout aujourd'hui, on quitte l'autoroute, on prend la départementale, on prend un chemin communal, et comme vous dites, on arrive dans ce petit val où on se demande ce que l'on va trouver, parce que si Marie avait choisi le sommet du pic du Midi de Bigorre, alors là, on irait avec beaucoup de joie, mais elle a choisi un petit val où le portable passe très mal, où les communications sont encore, on est quand même éloigné de tout. Garaison qui ressemble un petit peu à ce qui est à droite, à gauche. Et quand moi je suis arrivé la première fois, j'ai pas eu de chance parce que c'était le soir, l'hiver, et donc le jour tombait et mes frères de communauté m'ont dit « Alors Garaison, t'as vu les montagnes, t'as vu le village, c'est une grande ville ». J'ai dit « Écoutez, il faisait noir, j'ai rien vu, il faudra que j'y retourne pour voir ». Donc, mais même de jour, on ne voit rien. Il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir à Garaison. Mais c'est peut-être pour cela que des gens viennent à Garaison et que Marie nous invite à venir à Garaison, parce qu'il n'y a rien à voir. Ou plutôt, ce qui est à voir, c'est une œuvre d'alliance entre le nom de Dieu et l'œuvre des hommes.
Alors, quel parallèle vous feriez avec, avec Nazareth, sans que ça soit peut-être trop tiré par les cheveux, qui a peut-être une autre réalité, qui dit à quel point c'est un désert, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, Garaison est devenu un centre de rétention pour les citoyens de langue allemande. Je ne sais pas si ça peut éclairer votre propos, mais...
Voilà. Non, c'est
Nazareth
deux
n'était pas vraiment une prison.
Mais voilà, non. Et donc, vous mentionnez le fait que, justement, après les lois anticongréganiste de 1903, Garaison appartenait à l'État, et que quand en août 1914 l'Allemagne a déclaré la guerre à la France, on a donné 24 heures aux ressortissants allemands de quitter la France, ce qui était simple quand on habitait Strasbourg, ce qui est plus compliqué quand on habitait Paris ou Toulouse ou Bordeaux. Et donc entre 1914 et 1919, 5000 ressortissants allemands, hommes, femmes, enfants, dont un prix Nobel de la paix, le docteur Albert Schweitzer, vont être, entre guillemets, emprisonnés ici. Pour vous dire que quand on est à Garaison, ou quand des élèves arrivent du centre-ville de Toulouse ou de la banlieue de Toulouse à Garaison, ils ne voient que des champs, ils ne voient que des arbres, ils ne voient que le ciel. Donc on est un petit peu loin de tout. Ça peut nous rapprocher de Nazareth, puisque Nazareth, surtout au temps de Jésus, ce qui est différent aujourd'hui depuis la création de l'État d'Israël, Nazareth, au temps de Jésus, on nous dit il y avait à peine 30 ou 40 habitants, donc quelques maisons, un tout petit hameau dont on ne parle pas dans l'Ancien Testament, qui n'a pas de murailles, qui n'a pas de monument extraordinaire, et quand on visite la basilique de l'Annonciation, on ne voit qu'une petite alcôve avec cette phrase « Ici, le Verbe s'est fait chair », mais il n'y a rien d'autre à voir. Ce qui nous permet aussi de comprendre la religion. La religion, ce n'est pas d'abord de voir, d'expérimenter, c'est de croire, de voir l'invisible, pour reprendre un verset de la lettre aux Hébreux repris comme titre de livre, voir l'invisible.
Si je peux me permettre une incise, j'avais insisté lors de la première émission, donc c'est aussi, on ne l'a pas dit au début de cette émission, un internat, donc pour des élèves du primaire au lycée et un internat mixte. C'est pas, peut-être, est-ce plus difficile encore aujourd'hui que d'apprendre à voir ou à croire ce qu'on ne voit pas, parce qu'on est, c'est un classique de dire ça, hein, mais quand même dans l'ère de l'image, on va dire, on ne voit que ce qu'on, on ne croit que ce qu'on voit.
On est dans l'ère de l'image et du son.
Qu'en disent vos élèves ? C'était un peu le sens de ma question. Qu'il est difficile, particulièrement, de croire ce qu'on ne voit pas ?
Bien sûr, mais en même temps, ils peuvent... Alors, si on reprend l'image de Garaison, du lieu, c'est sûr que quand ils arrivent, et surtout s'ils arrivent plus ou moins contre leur choix, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que je viens faire à Garaison ?» Et ils vont se rendre compte que Garaison, c'est pas un enfer, que Garaison, on peut y vivre, que Garaison, on peut y tisser des liens d'amitié, que Garaison, on peut y grandir en humanité, et que Garaison va être un lieu qui va les enfanter à eux-mêmes, et pour lequel ils seront très heureux de revenir ensuite. Je pense à un élève qui a été un petit peu difficile avec moi la première année, et qui cet été est revenu à vélo, qui a fait 60 km à l'aller en vélo pour venir me voir, pour me dire simplement bonjour. Et je crois qu'à travers cela, à travers cette anecdote, il y avait cette appréhension du lieu pour lui, et qui était devenu un lieu où il venait même pendant les vacances pour dire bonjour. et je crois que lui a fait son chemin spirituel.
Et pour prolonger le sens de ma question, est-ce qu'ici, d'une certaine manière, ils apprennent un peu à votre école et à l'école de ce sanctuaire à voir au-delà de ce que l'on peut voir, justement ?
Ça demande du temps. Un petit peu comme l'enfantement, puisque nous sommes à 8 jours de Noël. L'enfantement d'un être humain, ça demande déjà 9 mois. Et ensuite, ça demande de longs mois et de longues années pour grandir, pour atteindre celui que, ou celle que l'on doit être. Donc, à Garaison, c'est pareil. Pour voir l'invisible, c'est comme si vous avez fixé le soleil ou la lumière pendant un bon moment et que d'un seul coup, on vous demande de regarder un tout petit objet par terre ou dans un coin plus sombre. Il faut que vous y habituiez. Et je crois qu'on est dans une société où nous sommes très pressés. Cette marche de l'avant, cette marche, ce pèlerinage de Marie-Joseph en direction de Bethléem, qui va leur prendre quasiment une semaine, hein, eh bien, tout cela nous apprend à retrouver un autre temps, un autre rythme, celui des pèlerins. Je me souviens d'un livre où l'on disait, il faut apprendre, Abraham devait apprendre à marcher au rythme de son troupeau. Pour faire son expérience spirituelle, il devrait prendre un autre rythme. Nous aussi, dans le monde qui est le nôtre, où tout doit être instantané, pour vivre une expérience spirituelle, il faut apprendre un autre rythme, et c'est peut-être celui que l'on essaye de donner à Garaison.
On va faire une première pause musicale, et puis on vous retrouve tout de suite après pour cette deuxième émission de l'Avent. Elle est au désert avec Marie.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église, donc en ce lundi, troisième lundi de l'Avent, depuis Notre-Dame de Garaison, pour une série donc d'émissions à l'occasion de cet Avent, même si là on n'en fait que trois, avec le père Pascal Garçon, qui est prêtre de Sainte-Croix et recteur de ce sanctuaire. Pour rappel, si vous nous prenez en cours de route, ce sanctuaire qui est donc dans les Hautes-Pyrénées, et où en 1515, la Vierge est apparue, en tout cas c'est la foi de l'Église, à une bergère anglaise de Sagazan. Dans cette émission qui a pour thème, cette deuxième émission, après entrer dans l'Avent avec Marie, aller au désert avec Marie, vous me suggériez, après avoir expliqué pourquoi peut-être la Vierge avait choisi ce lieu, elle a dit, donc, enfin elle a parlé de ce lieu, mais elle a dit particulièrement qu'elle l'avait choisi, c'est pas très fréquent, semble-t-il, dans les apparitions mariales, et vous vouliez insister là-dessus. Pourquoi ?
En effet, je crois que Notre-Dame du Laus, la Vierge Marie a dit aussi qu'elle avait choisi ce lieu.
Autre lieu d'apparition, cette fois dans les Alpes.
Dans les Alpes, oui, oui. Mais on a souvent l'habitude de comprendre Marie comme l'humble servante du Seigneur qui accueille, qui accepte tout, mais on oublie qu'elle est dotée de volonté. Et le fait qu'elle ait dit explicitement qu'elle a choisi ce lieu, je crois que ça nous remet dans le mystère de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, on peut les comprendre. Il y en a d'autres, et je crois que la majorité de nos concitoyens, peut-être même de nous-mêmes de temps en temps, nous croyons en Dieu, mais nous n'imaginons pas que Dieu va se tourner vers nous. Qu'est-ce que nous sommes dans l'univers ? Absolument rien. Et surtout que Dieu va nous parler. Je crois que ça, on peut croire en Dieu, mais croire que Dieu s'intéresse à moi et que Dieu veut me parler, c'est une autre démarche spirituelle et qui demande une autre foi. Et quand Marie dit qu'elle a choisi ce lieu, un lieu qui lui corresponde, un lieu où c'est discret, c'est simple, c'est beau, un lieu paisible, un lieu de paix, un lieu de silence. Un peu comme Nazareth, on comparait Garaison à Nazareth, pas géographiquement, mais par cette qualité de silence que Paul VI nous donnait lors de son premier pèlerinage, de son pèlerinage d'ailleurs, en Terre Sainte, où il disait que Nazareth était une école de silence, une école de simplicité, une école où l'on aimait demeurer.
Alors juste peut-être, avant qu'on parle du silence, si on devait revenir sur ce mystère de l'élection, donc la Vierge, donc, vous dites, on l'imagine souvent comme quelqu'un d'extrêmement humble et donc peut-être dénué de volonté, toujours est-il qu'elle elle a voulu donc choisir ce lieu. L'élection, ça peut être un objet parfois d'un scandale pour certaines personnes. On sait qu'il y a des gens, par exemple, qui cherchent un sens à leur vie ou qui cherchent à rencontrer Dieu et qui mystérieusement ne le rencontrent pas ou en tout cas cette rencontre tarde. Voilà, c'est aussi une interrogation que les gens peuvent avoir sur le peuple juif. Qu'est-ce que vous diriez peut-être de cette apparente iniquité de l'élection pour prolonger cette parole de la Vierge ?
Si on se sert de ce choix personnel ou ce choix d'un peuple pour en faire un privilège absolument fermé aux autres, je crois qu'on sera en pleine erreur. Par contre, le choix, et l'Église catholique insiste beaucoup là-dessus, ce choix est toujours un appel au service. Ce choix est toujours pour les autres. Pourquoi Dieu choisit telle ou telle personne ? Pourquoi Israël est le peuple choisi ? Il ne l'est que parce qu'il reçoit en même temps une identité, mais aussi une mission. Une mission qu'il ouvre aux autres. Et ça, en effet, c'est mystérieux. Pourquoi cet enfant qu'on appelait Lolek dans un petit village pas très loin de Cracovie va devenir prêtre alors qu'il a perdu toute sa famille au début de la Seconde Guerre mondiale, qu'il va devenir évêque de Cracovie, qu'un jour il deviendra pape? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand on prend son livre « Ma vocation, un mystère, un don et un mystère »
Vous parlez de Jean-Paul II.
Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Eh bien, et on s'aperçoit, on n'a pas vraiment de raison. Moi, je dis souvent, enfin, je disais souvent, je le dis toujours, que la consécration à la Vierge Marie est un double parachute. Vous savez, quand on saute en parachute, normalement, votre parachute dorsal, il s'ouvre sans problème. Ça, c'est très pratique. Mais il peut arriver qu'il ne s'ouvre pas. et que c'est le parachute ventral qui, à ce moment-là, va faire son office. Ben, je crois que dans notre vie, très curieusement, on est libre, profondément libre dans notre vie, et on se sent conduit. On se sent conduit en respectant notre liberté. C'est un choix, il ne nous appartient pas, il nous échappe même, parfois on peut tout faire pour s'en écarter, mais en tout cas, c'est un choix qui nous conduit, une aspiration à être plus, et curieusement, on va s'accomplir en suivant ce chemin qui ne nous appartient pas totalement. Je crois que dans la vocation, il y a toujours la personne de Dieu, le mystère de Dieu, et celui qui est en face.
En tout cas, bon, ça mériterait une. Vous m'avez donné une idée d'émission à faire sur le thème de l'élection. Si on continue donc sur le choix de ce lieu, il y a non pas une idée, mais une réalité qu'on n'avait pas eu le temps de développer dans la première partie. C'est que ce lieu que la Vierge a choisi est un lieu de silence. Alors, en cette veille de Noël et en cet avant, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps à propos du livre du cardinal Sarah sur le silence. Vous vouliez aussi insister sur l'importance du silence que vous avez redécouvert ici à Notre-Dame de Garaison.
Voilà, on veut partir de cela.
Ce qui est assez cocasse pour un religieux de redécouvrir le silence. Mais...
Oui, alors, donc nous ne sommes pas, les pères de Sainte-Croix ne sont pas des contemplatifs, nous ne sommes pas dans des monastères. Donc, j'avais certainement une expérience du silence, et là aussi, le choix de Dieu m'a fait vivre un certain nombre d'expériences avant d'arriver à Garaison, et je crois que toutes ces expériences, aujourd'hui, trouvent leur couronnement à Garaison. Donc, en venant à Garaison...
Donc, il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, je connaissais le bruit, je connaissais le silence, mais je ne savais pas que dans le silence, il y a différents degrés de silence. Et je pense que nos frères et sœurs contemplatifs dans leur monastère, si nous les rencontrons au temps de Noël, vous pourrez leur poser la question, je crois qu'eux savent très bien que dans le silence, il y a un silence plus intense. Il y a différentes colorations du silence, beaucoup plus forte qu'avec le bruit. Aujourd'hui, je m'aperçois que le bruit, il est un petit peu comme le péché. Il n'a aucune forme, il n'a aucun... Voilà, c'est du bruit. Tandis que le silence, c'est un petit peu comme la sainteté. C'est différent d'une personne à l'autre. C'est différent d'un lieu à l'autre. Il y a... Tout est silence, et pourtant, il y a un silence encore plus profond que le silence. La Bible parle avec le prophète le bruit d'une brise légère, je crois qu'il y a de ça, un petit peu comme on dit, le Saint-Esprit de Dieu. Ben, Dieu est déjà pur esprit, et dans ce pur esprit, il y a encore un esprit qui est plus esprit que l'esprit qu'est Dieu. Et bien dans le silence, c'est un petit peu pareil, il y a une expérience de communion, de communication, où là, on se découvre, et c'est peut-être à ce moment-là, et à ce moment-là seul, que le silence commence à devenir parole.
Si on devait prolonger sur le silence, il y a un autre personnage qui est présent à l'occasion de Noël, c'est Saint Joseph. Alors, on sait que Saint Joseph était l'époux de Marie. Ça, en tout cas, c'est on veut dire historiquement avéré, ou presque. Non, c'est historiquement avéré.
Oui.
Mais on sait très peu de cet homme, puisqu'il est connu, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie chrétienne, pour être l'homme de silence. Vous avez... dans les documents que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, vous avez une invitation aussi à essayer de découvrir Joseph, et une astuce en fait assez simple pour peut-être se mettre un peu dans les sentiments de cet homme qu'on connaît si mal et qui était un homme de silence.
Voilà, pendant ce temps de préparation de Noël, je crois que Joseph est celui qui accompagne, qui protège, qui entoure Marie. C'est lui qui prévoit toutes les étapes entre Nazareth et Bethléem. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un de très important. C'est vrai qu'on aurait pu avoir des paroles de l'Évangile. Je pense par exemple au Cantique de Siméon que l'évangéliste Saint-Luc aurait pu mettre dans la bouche quasiment de Joseph. Or, nous n'avons aucune parole de Joseph. Même quand Jésus a 12 ans, il le cherche dans le temple, on aurait pu, Joseph, qui aurait pu dire « Ta mère et moi t'avons cherché tout angoissé pendant 3 jours ». Or, ce n'est pas le cas. C'est Marie qui va parler. « Ton père et moi t'avons cherché tout angoissé ». Jésus dira dans sa vie publique, il faut donner le nom à personne de père, Abba. Et pourtant, c'est de ce même mot qu'il utilisera pour désigner Joseph. Abba Joseph est l'image, l'icône de ce père invisible que Jésus vient révéler, dont il est la parole. Et je crois que Joseph a cette grande place énorme pour nous faire comprendre qui est Dieu, cette partie de Dieu qui est invisible, que l'on n'entend pas, mais que l'on découvre par la proximité avec Jésus, qui lui nous parle de son Père. Alors la petite astuce dont vous parlez, ce n'est pas très théologique, mais moi je l'aime bien parce que je crois que Joseph est le premier. Lui qui était tellement amoureux de Marie, il est le premier d'une certaine manière à avoir prononcé notre prière du « Je vous salue Marie ». Imaginez-le regardant Marie en lui disant « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Il connaissait son épouse, elle était sa bien-aimée. « Le Seigneur est avec toi ». Il le sait, c'était au cœur même de l'Annonciation, l'Annonciation à Marie, sa propre Annonciation à lui, Joseph, dans la nuit. « Tu es bénie entre toutes les femmes », c'est pour cela qu'il l'a choisie pour son épouse, « et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni ». Il l'accepte, il l'accueille, il lui donnera lui-même le nom de Jésus. Il sait que c'est le don de Dieu par excellence.
Pour finir, j'aimerais que, pour prolonger cette méditation autour de Joseph et du silence, que vous la creusiez un petit peu. Vous dites aussi que le silence a un goût d'éternité. Est-ce que vous pouvez aussi creuser cet aspect qui nous aide peut-être à cultiver cette réalité, voilà, en ces temps liturgiques un peu particuliers, ça peut nous aider peut-être à nous ressaisir, à essayer de faire un peu de place pour le silence. Qu'est-ce que vous entendez par le fait que le silence est un goût d'éternité, ou quelle est votre expérience ici pour prolonger vos précédentes réflexions ?
Il faudrait beaucoup de silence avant de répondre à votre question. Mais je crois qu'à travers le silence, à travers la contemplation...
Il paraît que les grands mystiques disent qu'en fait, au ciel, la louange serait un grand silence.
Voilà, c'est possible, oui. Et oui, c'est possible, une sorte de respiration d'étonnement, peut-être, et d'action de grâce. Ce que je voulais dire, c'est que, et vous parliez du cardinal Sarah, de son livre, il dit dans son livre que tous les instants de silence et de prière sont ceux qui nous constituent en profondeur. Ben, je crois que c'est ça, ce silence par rapport à l'éternité, c'est là où nous ne faisons plus d'autre chose, parce que faire quelque chose demande du temps, a besoin de temps. Or, comme quand nous sommes dans le silence, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Non pas qui n'est pas vivant, mais qui s'est arrêté et qui devient l'écrin d'une autre expérience. Je me souviens d'avoir été dans le monastère des Petites Sœurs de Bethléem, où là, vous pouvez toucher du doigt, faire l'expérience d'un silence encore plus grand que tous les silences que vous pouvez connaître. Et ce silence vous met dans votre identité la plus profonde. Donc, vous êtes...
Le monastère de Bethléem, c'est donc comme un ordre des chartreux contemporains.
Voilà, exactement.
Sont d'ailleurs sur votre diocèse à Saint-Pé-de-Bigorre.
À Saint-Pé-de-Bigorre, exactement, oui. Et je suis toujours très heureux d'aller me replonger dans le silence à leur contact. Donc voilà, c'est cette réalité... où, et je pense réalité d'éternité, où nous sommes au ciel, Jésus nous dit, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela, on verra Dieu tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Mais je crois qu'un silence contemplatif, un silence d'où donne cela. Tous les silences ne peuvent pas être une expérience d'éternité, mais il y a un silence contemplatif qui nous permet de goûter cette éternité.
Et alors si le silence est parfois par trop subi, comment en faire un silence contemplatif ? Parce que peut-être y a-t-il un certain nombre d'auditeurs qui considèrent qu'ils vivent trop dans le silence, qu'ils n'ont pas assez de proches, pas assez de relations, pas assez de paroles échangées. Alors est-ce que tout simplement il faut les inviter à sortir de chez eux ? Ou est-ce qu'il y a une manière de transformer ce silence ? De passer d'un silence subi peut-être à un silence...
La manière de transformer ce silence, ce serait peut-être de reprendre un verset de l'Évangile selon saint Matthieu, « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. » Je crois que ce silence n'est pas une absence de relation, mais au contraire un appel à une relation plus profonde avec notre Père, et curieusement, à travers cette relation avec notre Père, avec une relation avec ceux qui nous manquent, avec ceux qui ne sont pas là, ou aux heures où ils ne sont pas là. Si je suis dans un hôpital, on sait tous que les heures de nuit sont beaucoup plus longues, beaucoup plus difficiles, mais ça peut être l'occasion aussi de cet apprentissage qui prend du temps là aussi, de cette présence de Dieu. Ton Père est là, il voit ce que tu es, ce que tu fais dans le secret, et il te le revaudra.
Voilà, je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale avant de vous retrouver pour cette deuxième émission donc, de cette série à l'occasion de l'Avent depuis Notre-Dame de Garaison, Aller au désert avec Marie.
France.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc en direct depuis le sanctuaire Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées, avec le père Pascal Garçon, donc père de Sainte-Croix et recteur de ce sanctuaire. Voilà, où nous faisons donc une série d'émissions à l'occasion de cet avant. Cette émission aujourd'hui sur le thème « Aller au désert avec Marie ». Alors après avoir vu dans la première partie de l'émission à quel point Garaison est un désert qui peut faire penser d'une certaine manière à Nazareth ou à entrer en tout cas dans la réalité de ce lieu, ou nous faire voyager dans la réalité de ce lieu, donc mieux comprendre les Écritures et peut-être le mystère de Noël, en tout cas de la vie de Jésus. On peut dire que Nazareth et Bethléem, Bethléem était un beaucoup plus gros village que Nazareth.
C'était un village où on traversait, c'était une sorte de halte d'autoroute, quoi. Donc on y était beaucoup parce qu'on passait à Bethléem, et Bethléem est tout proche de Jérusalem, que Nazareth, c'est quand même à 120, 150 kilomètres de Jérusalem.
Voilà, alors on va dire que c'est le temps de préparation où on peut vivre comme à Nazareth avant d'aller à Bethléem, pour être tout à fait raccord, comme on dit. Et puis dans cette deuxième partie de l'émission, vous avez dit que ce lieu donc, avait été choisi, ce qui est assez inhabituel, en tout cas cette expression qu'a utilisée ici la Vierge. Vous nous avez développé sur ce thème de l'élection et sur la présence de ce silence pour prolonger le thème du désert. Dans cette fin d'émission, si on continue sur les quelques phrases que la Vierge a dites à Anglaise de Sagazan en 1515, donc elle a choisi ce lieu pour y répandre ses dons, mes dons. Déjà peut-être l'expression, je ne sais pas, mes dons, sans vouloir me transformer ça en une émission de jésuite. Ça veut dire quoi?
J'ai fait la visite à un grand groupe.
Sac avec plein de cadeaux.
Voilà, mais c'est exactement ça que j'ai eu pendant une visite du sanctuaire avec des gens, des ingénieurs de Toulouse. Et à la fin de la visite, l'un d'entre eux me dit: alors, si j'ai bien compris, ici il y a une femme qui était richissime et qui vous a fait un chèque pour ouvrir une école. Puisque je répondrai ici, mais non, je ne sais pas tout à fait ça. Et donc maintenant, quand je fais la visite du lieu, j'essaye de préciser. Voilà. Les dons. Alors, on pourrait penser à une apparition beaucoup plus récente dans le temps, à la rue du Bac, où des rayons sortent des mains de Marie, et que ceux qui sont pas lumineux, c'est les grâces qui n'ont pas été demandées. Mais je crois que les dons pour la Vierge Marie, c'est tout ce qu'elle a dans son cœur, toute cette contemplation du visage du Christ et de la mission du Christ de sauver le monde. Marie n'est pas à séparer de son Fils, et pour elle, comme à Cana, elle va vouloir que l'heure de Jésus, que l'heure de Dieu puisse devenir notre propre heure. Elle va intercéder pour nous, elle va dire qu'ils n'ont plus de vin, comme à Cana. Elle va entendre notre souffrance et elle va se pencher vers Jésus et elle va faire accélérer le temps. Quand Jésus lui dit que son heure n'est pas encore venue, Marie se tourne pas vers les habitants de Cana en disant « Désolé, j'ai demandé à mon fils, mais que voulez-vous? Revenez demain parce que c'est pas encore son heure. » Non, non, Marie accélère le temps, et donc ses dons, c'est peut-être cette accélération du temps que pour permettre à Jésus d'agir, de réaliser son œuvre en nous, avant même que nous en ayons la capacité.
Donc ce serait le sens de mes dons. Ici, donc, c'est un lieu de grâce, voilà, comme promis. Est-ce que vous pouvez nous rapporter quelques histoires passées? Il y a, semble-t-il, quelques grandes histoires qui ont marqué l'histoire de ce sanctuaire, justement. On pourrait commencer peut-être par celle de la statue de la Vierge, celle qui est exposée dans le retable au cœur de l'église au-dessus de l'autel.
Alors, cette statue de la Vierge Marie qui est en bois, elle a connu les guerres de religion, et quand les armées de pillards sont arrivées au sanctuaire, ils ont pris tout ce qui était or, argent, tout ce qui était marchandable, et quand ils sont arrivés à cette statue qui devait être couverte de tissus précieux, ils se sont aperçus que c'était du bois, que le bois ça ne les intéressait pas, et comme ils avaient allumé un grand brasier à l'extérieur du sanctuaire, ils ont jeté la statue qui est restée quand même un certain nombre d'heures, et quand ils se sont retirés, les villageois qui se sont approchés se sont lamentés de voir qu'il n'y avait plus de statue, et celui qui était chargé d'éteindre le feu a découvert la statue qui n'avait pas brûlé et qui va garder sa couleur noire jusque dans les années 1970, au moment de la restauration par les monuments historiques, et cette restauration va lui redonner à la statue ses couleurs d'origine. Alors ça, c'est voilà, la Vierge miraculeuse qui devient elle-même miraculée à travers le feu. Donc, dans les grâces, vous savez, à Garaison, on dit parfois que c'est la préface de Lourdes, et elle l'est en particulier par rapport aux guérisons. On ne dit pas à Garaison qu'il y a des gens qui ont été guéris. Parce que si, quand on rentre dans le narthex, on s'aperçoit que tout le narthex est décoré d'ex-voto, et ces ex-voto parle du nom d'une personne, par exemple Marie de Toulouse, on a la ville, sa maladie, elle a été guérie d'une maladie de Dieu en 1608. Donc quand quelqu'un était guéri, quand quelqu'un avait eu une guérison, il devait se présenter devant un prêtre et devant un lieutenant du roi pour faire attester sa guérison. Un petit peu comme aujourd'hui, une guérison à Lourdes doit passer après par le bureau médical. Alors,
ça avait été institué autour de Notre-Dame de Garaison,
ou oui.
Le cas dans tout le royaume de France.
Je ne sais pas, mais cas, à Garaison, c'était formel. Et on a toutes les archives jusqu'à la Révolution. Elles sont conservées maintenant à Tarbes. Et dans un des bulletins des médecins du bureau médical de Lourdes, on parle de la méthode de Garaison pour authentifier une guérison. Alors, il y a des guérisons, beaucoup de guérisons pour les yeux, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Je pense aussi des guérisons un peu plus locales, une femme qui va rester 3 jours après une avalanche de neige et qui va venir rendre grâce.
Sous l'avalanche.
Elle a été bloquée sous l'avalanche et elle a été sauvée et elle vient rendre grâce.
Et ça, on en a le récit et le témoignage.
On a le récit et le témoignage et donc l'ex-voto en peinture. On a aussi les consuls de Rodez qui vont venir remercier de la protection de la Vierge pour la ville par rapport à une épidémie de peste. Et au mois de juin, le conseil municipal de Rodez est venu et se demandait pourquoi fallait-il venir jusqu'à Garaison. Ben, je dis, mais peut-être que Garaison avait cette influence à l'époque. Et un autre que j'aime beaucoup, c'est le numéro 41. Si nos auditeurs viennent, ils chercheront l'ex-voto numéro 41. C'est un homme qui est pendu. Et l'histoire raconte qu'on a mis sa foi et sa vie en équilibre et en disant « si tu continues de croire, eh bien, on te pend ». Donc lui, il est croyant, il décide de rester fidèle à sa foi, on le pend, il prie, paf, miraculeusement, la corde casse. Il est très heureux, mais les gens qui l'ont arrêté ne croient pas au miracle. On le rependouille une deuxième fois, il prie, paf, la corde casse. Mais on ne veut pas croire toujours au miracle, on le rependouille une troisième fois, il prie, et là, sans doute pour économiser de la corde, on l'a laissé partir, il est venu rendre grâce. Et à travers ce miracle, peut-être c'est de voir que, bien sûr, Dieu agit. Mais Dieu n'agit pas sans notre persévérance. Il a fallu que cet homme prie quand même très longtemps et qu'il vive une épreuve d'être pendu 3 fois avant de voir sa prière exaucée.
Est-ce qu'on a, puisqu'on a trace de ces guérisons, puisque vous dites qu'il y avait une manière d'authentifier, à l'époque, on sait, on a un nombre, comme le nombre de personnes dites guéries miraculeusement à Lourdes, ou de guérisons inexpliquées, comme on dit ?
Alors, il faudrait que je me replonge moi-même dans les archives pour pouvoir vous répondre.
Bref, de toute façon, le but du jeu, c'est pas forcément le nombre. Quand on se promène à Notre-Dame de Garaison, il y a le lieu de la source.
Voilà.
Voilà. Et là, on peut trouver encore, peut-être pouvez-vous décrire le lieu, qui n'est pas le lieu de la première source où était Anglaise de Sagazan. Enfin bon, peu importe, c'est pas très loin. Et toujours est-il qu'il y a aujourd'hui encore des ex-voto et des ex-voto très récents. Est-ce que vous avez eu. Vous pouvez décrire le lieu et puis nous dire, vous avez eu vent peut-être des guérisons récentes.
Voilà, c'est la même source. Hein. Mais comme très vite, les gens vont vouloir se baigner dans cette source qui préexistait aux apparitions, et quand on a construit le sanctuaire au-dessus du lieu d'apparition et donc de la source, comme les gens voulaient s'y baigner, eh bien, ils devaient se déshabiller dans une église. Même à l'époque, ça faisait un petit peu désordre. Donc c'est à ce moment-là que la source va être déviée et qu'elle est maintenant au chevet de l'église. Alors, les ex-voto d'aujourd'hui, je crois que le plus récent, c'est suite à un accident d'automobile où la personne rend grâce à Marie de sa protection. J'ai vu aussi une autre personne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins... Enfin, moi, mais peut-être qu'il faut que je me convertisse, on est beaucoup moins précis sur la réception des récits de guérison et sur leur vérification. Mais je repense à une personne que j'ai rencontrée l'été dernier et qui revenait 1 an après à Garaison parce qu'elle était venue chercher de l'eau et qu'elle avait été guérie, et elle venait rendre grâce à la Vierge Marie simplement pour ça. Et c'est un lieu, comme vous dites, qui est très fréquenté, peut-être même plus fréquenté que le sanctuaire. Les gens viennent mettre des fleurs, viennent mettre des cierges. Là, c'est vraiment le lieu du cœur à cœur avec Marie. Et s'il y a tant de sanctuaires mariaux près d'une source, c'est que je crois que cette source est le signe de l'Esprit-Saint. hein, de son cœur de Jésus sortiront des fleuves d'eau vive, eh bien là, les chrétiens, dans leur sens de la foi, comprennent que cette source, elle n'est pas miraculeuse par elle-même, mais le signe à la fois de leur propre croyance, de leur foi, et en même temps du don de Dieu.
Vous pouvez développer peut-être le lieu de cette source, puisque vous avez dit plusieurs fois que les garaisons étaient comme un ancien Lourdes. Autrefois, on venait aussi s'y baigner comme à Lourdes.
Voilà. Donc, on peut voir que dès le départ, dans le narthex, il y a cette belle procession des malades. Parce que pour qu'il y ait des guérisons, il faut qu'il y ait des malades. Donc, on voit ces malades qui viennent vers la source et qui viennent vers un bassin qui a très vite été creusé. Ce bassin, on le retrouve dans la nef, enfin, en peinture dans la nef. Et ce bassin semble être celui que l'on trouve à côté de la fontaine où les gens se baignaient. Quand, en 1865, Monseigneur Laurence va appeler les pères de garnison à devenir les premiers chapelains de Lourdes, eh bien les pères de garnison vont faire à Lourdes ce qu'ils ont expérimenté déjà à garnison. Et si on parle de piscine à Lourdes, eh bien on peut penser que le bassin de garnison a été une pré-annonce de cet acte de foi. Je crois que là, on y voit vraiment la foi d'hommes, de femmes, de mamans, quand ils vont se plonger dans les piscines de Lourdes. C'est cet acte de foi énorme et pourtant si simple.
C'est plus le cas, en tout cas, à Notre-Dame de Garnison. Vous invitez à quelle démarche, du coup, autour de la source ?
Les gens viennent boire de l'eau, viennent prendre de l'eau, mais on ne se baigne plus à Garnison pour l'instant.
Pour finir cette deuxième émission, au regard de ce que vous nous avez dit, donc aller au désert avec Marie, on a compris que ce lieu l'était, que c'était un lieu où on pouvait creuser le silence, ou en tout cas trouver un sens peut-être au silence. Et puis, ce lieu est un lieu de grâce, semble-t-il, assez particulier. Que diriez-vous aux auditeurs qui sont à quelques jours de Noël et qui peut-être n'auront pas le loisir de venir à Notre-Dame de Garnison, mais qui ont suivi ces deux émissions et qui appréhendent ces fêtes de Noël parce que elles se sentent seules, parce que le silence, en dépit de vos précieux conseils, continue à peser. Quelle joie peuvent-elles attendre, ou quel chemin pouvez-vous leur indiquer ?
Mais le titre de notre émission aujourd'hui, à quelques jours de Noël, c'était d'aller au désert avec Marie. Mais il ne faut pas croire que c'est un appel à s'évader, à une évasion. Au contraire, Marie ne cherche pas à s'évader. Marie, en se déplaçant, va venir vers nous. Et je crois que c'est peut-être la première grâce de penser à cette visitation. Élisabeth qui va s'exclamer « Comment est-ce possible que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ?» Jésus ne s'est pas enfui dans le désert. Jésus n'était pas essénien. Jésus va venir vers nous, va venir dans notre maison. Marie, c'est la même chose. Marie vient vers nous. Au temps de Noël, on se fait des cadeaux. Et moi, un jour, on m'avait dit « Si tu veux trouver le bon cadeau à faire à quelqu'un, fais quelque chose qui te plaise. » Eh bien, quel cadeau Marie va-t-elle nous faire ? Un cadeau qui lui plaise. Et donc, en regardant Marie, on a tous à côté de nous une image de Marie, une icône de Marie, une statue de Marie. Pensons, mais qu'est-ce qui ferait plaisir à Marie ? Et une fois qu'on va trouver ce « qu'est-ce qui ferait plaisir à Marie ?», pensons que c'est elle qui va nous en faire le cadeau. Et puis la troisième chose qu'en ce temps de Noël, Marie peut nous aider à vivre, c'est ce que j'ai déjà dit, de grandir en espérance. Marie va nous faire un bond existentiel. Marie va nous faire avancer très vite vers le royaume et faire advenir cette venue du Christ, ce royaume de Dieu en nous, tout près de nous, dès maintenant. Et je crois que c'est, il n'y aura rien d'extraordinaire, il n'y aura rien peut-être de miraculeux, entre guillemets, mais tout sera spirituel. Et cette présence et cette habitation de Dieu avec la Vierge Marie et Saint Joseph qu'on a évoqué tout à l'heure, ben je crois que ce sera une source de bénédiction pour chacun d'entre nous et pour les auditeurs les plus seuls en ce temps de Noël.
Pour finir, une dernière question quand même. Peut-être certains auditeurs se disent c'est très beau en fait, et le père comment dire, mais je n'ai pas la foi du père Pascal Garçon, ou je n'ai pas.
Mais qu'il se rassure, parce que moi non plus j'ai pas la foi.
Je n'ai pas sa science, et quand je vais éteindre mon poste de radio, que Marie soit présente à mes côtés, ça peut rester en partie une idée. Qu'est-ce que vous diriez peut-être comme dernier conseil pour passer, même si on prie, même si on persévère dans la prière, de passer à une idée, à une présence? Est-ce qu'après, ça dépend de la grâce de Dieu, ou est-ce qu'il y a quelques astuces?
Sans doute, mais c'est parce que vous n'y croyez pas que vous n'allez pas vous faire d'illusions. Parce que vous n'y croyez pas, parce que ça vous paraît impossible, Or, rien n'est impossible à Dieu. Parce que ça vous paraît impossible, eh bien, c'est justement cette présence que vous allez expérimenter. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas pour vous faire illusion. Ça vient, ça vous est donné. Et moins on y croit, plus peut-être on se prépare à la recevoir.
Alors, si vous deviez peut-être parler de vous, sans être trop indiscret, est-ce que vous, ici, en dehors de l'histoire sainte que vous décrivez, vous avez l'impression de vivre en présence de la Vierge? Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être en partager?
Oui, je crois vraiment, je vous ai dit au cours de l'émission que pour moi, être à Garaison, c'était l'aboutissement de trois lignes de fond de ma vie de croyant. Mais en même temps, comme nos auditeurs, j'ai beaucoup de mal à croire. Je devrais croire beaucoup plus. Je reçois tellement que je devrais pouvoir donner et dire autrement et beaucoup. Et je suis tout faible, je suis très limité, et je n'ai pas assez de foi. Quand je vois des mamans, quand je vois des malades, quand je vois des jeunes, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils ont la foi? Alors moi aussi, en ce temps de Noël, je demande la grâce de la foi et je demande à Marie de continuer à faire avec moi ce qu'elle a fait depuis de longues années.
Merci beaucoup, Père Pascal Garçon, de nous avoir reçus pour cette deuxième émission. On vous retrouvera donc lundi prochain, le lundi de Noël, pour une dernière émission de cette série, depuis donc le sanctuaire de Notre-Dame de Garaison, à découvrir donc ce sanctuaire premier lieu d'apparition mariale reconnue en France. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.